Alors nous arrivons à la dernière étape de cette neuvaine qui en même temps est l'entrée dans la solennité de l'Immaculée Conception. Donc c'est assez beau de terminer notre chemin pour arriver à un commencement, ce commencement du salut qui nous est donné en plénitude. C'est vraiment de cela dont il faut faire mémoire. À travers cette neuvaine, on l'a fait à la lumière de l'Écriture sainte, du livre de la Genèse, du livre de l'Exode, à travers le don de la loi. Ensuite, on a parcouru rapidement les prophètes et les psaumes pour arriver à la béatitude. Aux béatitudes, voir comment ce salut se déploie à travers notre vie. Alors la dernière étape était intitulée « Je te salue, comblé de grâce ». Donc c'est repris de l'évangile de Saint-Luc. Vous savez qu'au chapitre 2, il y a l'ange qui vient annoncer à la Vierge Marie qu'elle sera enceinte, qu'elle va enfanter le Sauveur. Et c'est la première chose qu'il lui dit, « Je te salue Marie, comblée de grâce, réjouis-toi, comblée de grâce ». Cette joie est la correspondance à la grâce du salut. Et quand on répond à la grâce, celle-ci vient nous combler. Alors quand on se réfère à la Vierge Marie, évidemment, on voit une situation exceptionnelle et en même temps, cette situation exceptionnelle, comme je l'ai dit au début de la neuvaine, elle nous est donnée à contempler. Ça veut dire qu'elle nous est donnée en partage. La grâce de l'Immaculée Conception nous est donnée, ce qui fait que Saint Paul nous appelle à vivre dans cette Immaculée Conception, selon l'Épître aux Éphésiens. Alors ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est de voir comment deux personnages bibliques dans l'Évangile selon Saint-Luc se sont accordés à cette grâce. Alors deux personnages assez différents. Le premier personnage n'est pas nommé. Il s'agit de cette personne dite pécheresse, la pécheresse qui rejoint Jésus dans le cadre du repas chez Simon. Alors je reprends quelques passages de cet évangile. Un pharisien l'invita à manger avec lui, donc c'est Jésus qui est invité. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme qui dans la ville était une pécheresse. En général, quand une femme est désignée comme étant une pécheresse, on pouvait supposer qu'elle était dans la prostitution, qu'elle était enfermée dans cet enfer de la prostitution. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. Et se plaçant par derrière à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes et les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfums. Alors on peut essayer de s'imaginer un peu ce passage biblique et de voir cette femme aimer Jésus. Aimer Jésus avec beaucoup de tendresse. Et puis le texte nous donne d'entrée, dans les versets suivants, dans les pensées du pharisien, de Simon, qui est chez lui, qui reçoit Jésus et qui en même temps est témoin de ce qui se passe. À cette vue, le pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. » Et ce qu'elle est, une pécheresse. Alors comment est-ce que Simon se situe par rapport à ce qu'il voit, par rapport à cette femme? Il se situe par rapport à son péché. Il sait que c'est une pécheresse, et donc le regard qu'il a sur elle, c'est le rapport au péché. C'est intéressant parce que ça peut nous questionner. Quand on a été témoin du malheur d'une personne, du péché qu'elle a peut-être commis ou qu'il l'a atteint, comment est-ce qu'on la regarde? Quel est le regard qu'on porte sur elle? Est-ce qu'on l'enferme dans le péché ou bien est-ce qu'on la regarde à la lumière du Sauveur, à la lumière de Jésus, à la lumière du salut qui lui est donné ici et maintenant. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans le cadre de cette neuvaine, Jésus est mort et ressuscité. Cette résurrection vient nous rejoindre dans chacune des situations que nous vivons. Cette résurrection nous précède. Dans une très belle encyclique qui s'appelle Veritatis Splendor, Jean-Paul II nous interpelle avec beaucoup de force sur la manière précisément dont on regarde l'autre. Est-ce que celui qu'on regarde, c'est celui qui a péché, ou bien est-ce que c'est celui qui est déjà bénéficiaire du salut ? Cela étant, ce rapport au salut vient du coup changer notre regard et vient nous combler de grâce précisément. Comment est-ce qu'on contemple les personnes ? Est-ce qu'on les contemple à partir du salut ou bien en les enfermant dans le péché ? Donc, se conformer à la grâce de l'Immaculée Conception, c'est vivre au rythme du salut, c'est accorder notre regard, accorder nos pensées, accorder notre cœur, accorder nos comportements à cette grâce du salut et ouvrir dans nos relations, cet espace d'espérance. Donc l'Immaculée Conception, ce n'est pas simplement une réalité que l'on contemple de façon lointaine. La question, c'est comment est-ce qu'on vit de ce salut ? Alors Jésus est un grand pédagogue. Il connaît les pensées de Simon, il connaît Simon, il voit son regard, et donc à travers son regard, il devine ses pensées, et donc il va le conduire à comprendre quelque chose de cette grâce du salut. Donc Jésus dit à Simon, « J'ai quelque chose à te dire. « Parle, maître, » répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 5 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? Alors, la manière dont Jésus reprend Simon est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment exemplaire. Simon est un calculateur. Simon, il dit, c'est une pécheresse, donc voilà. Donc, il calcule en fonction de l'agir des gens. Et donc, Jésus le reprend par là. Il prend une petite parabole qui fait référence à un débiteur. Alors, Simon répond et dit, « Celui-là, je pense, auquel il a fait grâce de plus. » Donc, il raisonne bien, en fait. Au niveau du raisonnement abstrait, ça va très bien. Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et puis, il lui fait faire un pas de plus. Il passe de la parabole à la situation vécue. Quelle est cette situation ? Eh bien, Jésus se tourne vers la femme et il dit à Simon, « Tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu ne m'as pas répandu d'huile sur ma tête. Elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. À cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Ce qui se passe là est exceptionnel. Ce que la pécheresse a fait vis-à-vis de Jésus devient une bonne nouvelle pour Simon le pharisien. Les pharisiens, ce sont ceux qui connaissent la loi et qui sont les spécialistes de la loi. C'est ceux qui ont l'habitude de l'interpréter. D'accord ? Donc, par rapport à la loi, le péché est quelque chose d'impur. Et voilà que Jésus donne un enseignement, Jésus qui l'appelle maître, un enseignement à ce maître, à partir de l'amour de cette femme. Alors je pense que pour nous, ça nous réfère profondément à la grâce de l'Immaculée Conception. La grâce de l'Immaculée Conception nous permet de comprendre, au fond, qu'il est toujours possible et à chaque instant d'aimer Jésus. Quel que soit notre péché, quelle que soit notre situation, l'amour de Jésus est toujours possible. Et au fond, Jésus va juger, non pas à partir du péché, mais comme il le dit, à partir de l'amour de cette femme. Il me semble que ça nous ouvre une voie d'espérance, mais incroyable. Saint Luc insiste beaucoup là-dessus. souvent, dans son évangile, il met en scène autour de Jésus deux personnages. Le personnage légaliste, celui qui va se référer à la loi, et puis celui qui enfreint grossièrement la loi, hein, qui est, qu'on pourrait qualifier de gros pécheur. Et il les met l'un à côté de l'autre, et il nous montre au fond que ce qui est important, ce n'est pas le fait d'avoir commis des petits ou des gros péchés. Ce qui est important, c'est de se référer à la miséricorde et à l'amour de Dieu. C'est assez beau, ça nous ouvre une grande espérance, et en même temps, ce n'est pas si évident. Il y a un autre passage de l'évangile que vous connaissez bien, qu'on reprend souvent, hein, pour expliciter un peu ce qu'est la miséricorde de Dieu. Hein. Ce sont les paraboles de la miséricorde, et en particulier celle qui concerne le fils prodigue. Ce fils qui s'en va avec l'héritage, le jeune fils qui s'en va, le fils aîné qui reste, hein, qui est très fidèle à tout ce que le père lui demande, et voilà que le jeune fils revient, et c'est pour lui qu'il y aura la fête. Alors il y a ce fils aîné qui trouve que c'est pas juste, parce que on est des calculateurs. Et ça nous arrive aussi. Hein. La gratuité du salut, hein, est-ce qu'on l'accueille? Est-ce que quand il y a des catéchumènes à Pâques, hein, qui ont eu cette grâce de salut, qui vont recevoir le baptême, est-ce qu'on entre dans cette grâce dont ils ont été bénéficiaires? Hein. La question, c'est pas de juger à partir de ce qu'ils auraient pu vivre, mais plutôt de contempler la grâce dont ils sont bénéficiaires. C'est ça la communion. La communion de l'Église consiste à ce que nos relations ne se limitent pas à ce qu'on a fait de bien ou à ce qu'on a fait de mal, mais à la grâce dont on est bénéficiaire. Lorsque je regarde l'autre à la lumière du salut de Dieu, eh bien, à travers mon regard, je peux le lui communiquer. Ça, c'est le regard de la Vierge Marie. Elle est pleinement bénéficiaire de ce salut. Et quand elle vous regarde, ce qu'elle voit en vous, c'est la plénitude de ce salut, et elle attend qu'une chose, c'est que vous vous accordiez à cette plénitude de salut. Alors il y a un autre exemple dans l'évangile qui est un de mes passages préférés. C'est en Luc au chapitre 23. On est dans la passion, Jésus est crucifié. Et vous savez que Saint Luc nous montre ce passage à travers la présence de Jésus et puis deux autres présences. Hein. La présence d'un premier larron, d'un premier malfaiteur et puis un autre malfaiteur. C'est assez intéressant que cette scène, que ce passage nous montre à quel point Jésus rejoint ceux qui sont perdus. Hein, ces deux malfaiteurs qui sont crucifiés, s'ils sont là, d'ailleurs il y en a un qui le dit, pour nous c'est juste, ça veut dire qu'ils ont commis des crimes extrêmement graves, mais vraiment extrêmement graves. C'était la peine, à l'époque la crucifixion, c'était la peine la plus lourde qu'on pouvait imposer à une personne. Donc ces deux voisins ont commis des actes extrêmement graves. Alors il y en a un qui va se tourner vers Jésus en disant, mais si tu es le sauveur, sauve-toi toi-même et nous aussi. Alors cette perspective, elle peut nous habiter de temps en temps. Hein. Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais, hein? Tu vois pas, toi qui es amour et miséricorde, mais viens me sortir de là. Cette perspective est peut-être une perspective de survie. Hein. On tâche de survivre à travers les difficultés, et là en l'occurrence, à travers l'abîme de la mort. Hein, parce qu'ils étaient voués forcément à mourir. Donc il y en a un qui demande à Jésus de lui ouvrir la voie de la survie, hein, qui veut éviter ce qu'il est en train de vivre. L'autre a une réaction étonnante. D'abord, il dit, pour nous, c'est juste. Et en disant cela, il y a une phrase qui suit, mais lui, il n'a rien fait. Reconnaître que pour nous, c'est juste, nous conduit à reconnaître jusqu'au bout l'innocence de Jésus. Hein, le fait qu'il est sans péché. Mais lui, il n'a rien fait. Et puis, il se tourne directement vers Jésus. Et vous savez ce qu'il lui demande. Quand tu seras au paradis, hein, souviens-toi de moi. Hein, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. Et Jésus lui répond, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ce passage est exceptionnel. Il nous ouvre à une espérance incroyable. Ce grand malfaiteur qui est puni pour tout ce qu'il a fait de grave, à travers la reconnaissance de son sauveur et la reconnaissance honnête de ce qu'il a fait, quand il dit « pour nous c'est juste », donc il y a cette reconnaissance honnête, mais il y a cette confiance dans le Christ, ce grand malfaiteur devient le premier saint au ciel. C'est quand même, c'est beau la foi chrétienne quand on voit ça. Il y a une espérance dont elle est porteuse, qui nous dit que non seulement à chaque instant de notre vie nous sommes doués, nous recevons la plénitude de l'amour du Christ, mais qu'à chaque instant de notre vie, nous pouvons consentir à la plénitude de ce salut. Il en va néanmoins, ça ne se fait pas automatiquement, il en va néanmoins de l'engagement de notre liberté. Comment est-ce que, au quotidien, on engage notre personne par rapport à cette grâce de salut? Et comment est-ce qu'on la communique? C'est ça l'évangile. L'évangile, c'est reconnaître que perpétuellement, et c'est vrai, perpétuellement nous sommes sauvés. Vous savez, sainte Thérèse de Lisieux rendait grâce pour les péchés qu'elle n'avait pas commis. Parce qu'elle se rendait compte que si elle ne les a pas commis, c'est parce qu'elle était sauvée. Il y a des moments où on fait l'expérience d'être sauvé par avance. Et ce sauvé par avance, ben, il s'exprime pleinement à travers cette figure de la Vierge Marie, à travers cette grâce de l'Immaculée Conception. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors peut-être qu'on peut enchaîner, vous voyez, comment est-ce que cette grâce de l'Immaculée Conception vient nous éclairer sur le temps de l'Avent. L'Avent, c'est l'accueil de Jésus. Alors on accueille Jésus qui est venu, qui est venu dans l'histoire, qui s'est incarné dans la Vierge Marie, mais on accueille Jésus, on accueille le Verbe de Dieu, le Verbe incarné dans nos cœurs, et cet accueil nous dit à quel point on est dans l'attente de son retour. Donc il y a un peu trois moments qui se condensent dans cette attente vers Noël. Alors comment est-ce qu'on y prépare notre cœur? Il me semble que de ce point de vue-là, les vertus théologales que nous connaissons bien par ailleurs, eh bien, la question peut-être qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on en vit? Comment est-ce qu'on en vit? Vous savez que la plus grande des vertus, c'est une des trois vertus théologales. Donc saint Paul dit les trois demeurent, mais il y en a une qui est plus importante que les autres, c'est la charité, c'est l'amour. Donc c'est ce dont témoigne cette femme auprès de Jésus, cette capacité d'aimer plus profondément que son péché. Voilà. Quand nous aimons, quand nous vivons de la charité, nous participons. Pourquoi c'est la plus grande des vertus? Parce que nous participons à l'être même de Dieu. Nous participons à qui est Dieu. La charité met Dieu au monde. La charité met Dieu au monde. À chaque fois que vous posez un acte de charité, c'est Dieu qui vient au monde pour l'humanité. Donc sa venue, elle n'est pas sans lien avec l'engagement de notre liberté. À chaque fois que nous posons un acte de charité, aussi à chaque fois qu'on pose un acte de foi. L'acte de foi, c'est pas se dire oui, je pense bien que Jésus, il est venu dans l'histoire et qu'il nous donne le salut. C'est pas ça un acte de foi. Un acte de foi, c'est je crois. Un acte de foi, c'est cette adhésion à Jésus qui se révèle ici et maintenant. Comment est-ce que notre cœur est disponible à cette révélation du Christ ici et maintenant? L'acte de foi, c'est cette ouverture du cœur qui nous donne accès à son amour. Et l'acte de foi, qui est une fidélité, transfigure notre vie, mais transfigure aussi l'environnement dans lequel on est. C'est aussi une manière de mettre Dieu au monde. En fait, les trois vertus théologales nous donnent vraiment de participer profondément, pleinement, à la venue du Seigneur à travers l'histoire. Et puis cette troisième vertu théologale qui est l'espérance. Ça, c'est très important, l'espérance. Il y a un très beau texte de Peggy, que vous connaissez peut-être, que je vous conseille de lire pour une lecture de l'Avent. C'est le porche de la deuxième vertu. Il appelle l'espérance la petite sœur espérance. Elle est la plus discrète parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle est au fond. Dans notre vie quotidienne, on vit de beaucoup d'espoir. On peut espérer que demain il fasse beau. On peut espérer que demain soit un meilleur jour. Vous avez peut-être eu une journée difficile et donc vous espérez que demain ça ira mieux. Alors peut-être que oui, peut-être que pas. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que l'espérance, elle est plus profonde. Elle est reliée à la vie que Dieu nous donne ici et maintenant. Elle s'appuie sur la seule réalité qui demeure. Quelle est la seule réalité qui demeure ? Hein ? Évidemment, c'est l'amour de Dieu, mais à travers son amour, c'est la vie même de Dieu. C'est la vie même. Tout dans notre vie peut basculer. Mais il y a une réalité qui demeurera toujours, c'est la vie que Dieu nous donne. Jusque dans notre mort, il veut nous donner la vie. La question, c'est est-ce qu'on y accède ? Hein ? Est-ce qu'on y répond ? L'espérance, c'est le fait de répondre à cette vie éternelle qui est plus profonde que nos limites, qui est plus profonde que nos souffrances, qui est plus profonde que notre mort. Et donc, à travers les vertus théologales, eh bien, on prépare notre cœur à mettre Dieu au monde. On participe à sa venue dans l'histoire. Quand on parle du retour du Christ, on se dit, ben, un jour, il va arriver. Oui, certainement, mais il n'arrivera pas sans nous. Il n'arrivera pas, comme il a attendu le oui de Marie, il attend le oui de l'Église. Et donc, le oui de l'Église, bah, c'est à travers les vertus théologales. Et donc, il se laisse enfanter à travers le corps qui est l'Église. Et donc, nous sommes responsables de cette venue de Dieu. Nous sommes responsables de cette bonne nouvelle du salut. Voilà ce que je vous dis. Ce que je voulais vous dire, je voulais aussi vous remercier pour votre attention. J'étais très heureuse de cheminer avec vous là pendant 9 jours. C'était une belle neuvaine dans une belle communion et donc je me réjouis aussi de célébrer avec vous l'Immaculée Conception.
Merci Laetitia. Merci infiniment.
Avec joie.
Pour toutes ces bonnes paroles, pour toutes ces vérités. Ce que je te propose, c'est qu'on se lève, qu'on confie tout ce que Laetitia a pu nous dire, comme chaque jour de la neuvaine, et puis qu'on confie aussi ton ministère auprès des séminaristes, auprès des étudiants, auprès des évêques, des cardinaux, du pape. Enfin bref, c'est pas rien d'avoir à exprimer des vérités qui changent la vie des autres. Donc